tout cela, fâché certainement que Marigny eût libéré l'apothicaire. L'ordonnance, toutefois, était signée de la main même du roi, ce qui signifiait que l'affaire était à présent remontée jusqu'à lui. Mais en quoi Andreas pouvait-il intéresser Philippe Lebert? Cela avait-il vraiment un rapport avec la pièce vide, le tableau? Avec ses origines, au sujet desquelles Nogaret prétendait savoir quelque chose? Ou bien avec cette mystérieuse Scola Gnosticos, dont il ignorait encore tout, sinon que la seule évocation de son nom faisait pâlir Maître Eckhart? Et toutes ces questions n'étaient pas les seules qui, comme il marchait, hantaient l'esprit de notre apothicaire. L'homme, confus et tourmenté, se demandait aussi qui avait pu mettre le feu à sa maison. Et ce faisant, mettre un odieux terme à la vie de Lambert et Marguerite. Notre docte maître Saint-Loup resta tout le jour si profondément aspiré par ses sombres pensées qu'il n'éprouva ni la fatigue ni la faim, et à la tombée du jour, sans avoir eu le sentiment de marcher tant, il arriva en vue du village d'Étréchy, enfoncé dans un bassin aux coteaux plantés de vignes. Mais alors qu'il approchait de ce petit bourg dans l'espoir d'y trouver un lieu où dormir, un nouvel événement fâcheux l'en empêcha. Chapitre 53. Les premières heures de marche, pour Alice, furent bien plus pénibles encore que celles de Maître Saint-Loup. Les choses qu'elle portait n'étaient pas à sa taille, et elle souffrait toujours des nombreuses blessures que son père, en la battant, lui avait faites. Comme elle ne voulait rencontrer personne, la jeune Occitane décida de marcher en pleine campagne plutôt que de suivre la route, ce qui ne facilita pas sa tâche. Et elle se fia donc au soleil pour se diriger vers l'ouest, bien qu'elle ne fût en aucun cas certaine que cela suffirait pour un jour atteindre Bayonne. Elle qui n'avait jamais vraiment voyagé, ignorait tout de la façon dont on se repère en pleine nature. Sans doute eût-elle mieux fait de s'en soucier un peu plus tôt, au lieu de partir ainsi sans s'être préparée. Mais les événements ne lui en avaient pas laissé le temps ni la liberté. Et peut-être pouvait-elle s'en remettre à la Providence, laquelle lui avait trop rarement souri pour ne pas, cette fois au moins, lui être plus clémente. Plutôt que de traverser l'Orbe par le vieux pont, où on eût pu la voir, elle passa de l'autre côté du fleuve plus au nord, en empruntant une petite embarcation abandonnée. Puis elle s'engagea péniblement dans les terres viticoles qui s'étendaient à perte de vue tout autour de la grande ville. Comme l'hiver avait été rude, pour éviter les gelées, les paysans venaient seulement de commencer la taille des vignes, afin de limiter leur encombrement et de favoriser le développement des fruits. Plus on réduisait le nombre de grappes, plus cela permettait d'enrichir celle-ci en sucre. Et il fallait donc un savant dosage que seuls des siècles de tradition viticole avaient permis de mettre au point. Ainsi dénudée, la vigne ressemblait à autant de longs doigts grêles et crochus sortis de terre, comme si des milliers de sorcières avaient été enterrées là, et tentassent en vain de s'extraire du sol pour revenir dans le monde des vivants. Alice posa un dernier regard sur ce décor qui avait accompagné toute son enfance, et se remit en route vers l'ouest. La marche provoquait en elle de vives douleurs qui tiraient à son visage d'horribles grimaces, et sans doute, toute autre jeune fille se fût arrêtée depuis longtemps. Mais il y avait dans le cœur de celle-là plus de force et de détermination qu'en celui de bien des hommes. Les joues tachées de larmes séchées, le regard dur et droit, elle continuait courageusement, car chacun de ses pas l'éloignait de Béziers, et de tout ce qu'elle voulait oublier. Au milieu de la journée, comme elle avait passé par le nord le petit village de Morayan, ses pas la menèrent sur des terres rouges, cuivrées et rocailleuses, plus arides, qui entouraient au loin une chaîne de rochers escarpés. Elle entrait dans la garrigue. À l'aide de son couteau, elle se confectionna alors un solide bâton de marche dans du bois de chêne vert. Puis elle commença sa lente progression à travers les buissons et arbustes, dont les branches dures et griffues lui lacéraient les jambes. À cette époque de l'année, certains arbres précoces de la garrigue étaient déjà en fleurs. Les hauts amandiers et leurs boutons d'un blanc rosé, les antiques merisiers, les buissons noirs des prunelliers, les genévriers cades et leurs myriades d'aiguilles acérées. Et ce retour de la flore à la vie était accueilli par une multitude